Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Bien sûr, nous devrions être à Cannes. Après tout le monde y est, de Laure Adler aux grosses têtes, d'Augustin Trapenard à Kev Adams, du jeu des 1000 euros au casting des anges de la télé-réalité, saison 42, de Martin Scorsese à Anne Roumanoff, tout le monde, même Ronan Crowe y est, sauf nous. D'aucuns, plus sensibles, le cuir moins tanné par des années d'expérience, pourrait en concevoir une certaine amertume. Pas nous. Et la raison de cette consolation aussi immédiate qu'indolore, c'est que pendant ce temps-là, nous, on s'offre, et on vous l'offre par la même occasion, vu que la maison pop-pop-pop n'est pas chiche, une rencontre avec ce jeune homme qui, en l'espace de quelques années, a gravi tous les échelons du podium, comme disent les amateurs de métaphores sportives. Sa silhouette de super-héros déjanté s'affiche en ce moment même sur tous les panneaux publicitaires. Car oui, c'est un super-héros, mais pas tout à fait comme les autres. Un sens de l'humour à l'épreuve des balles qui pleuvent sur lui. Il dessoude à tout va en moins de temps qu'il n'en faut à un plombier polonais pour changer un joint. Et ses aventures sont plus allumées qu'un feu de forêt en Corse en pleine période estivale. Wade Wilson, plus connu sous le nom de Deadpool, plus connu sous le nom de Ryan Reynolds, est, ou plutôt sont, les invités de Pop-Pop-Pop.
France Inter.
Pop-Pop-Pop.
Antoine Decaune.
Au menu de Pop-Pop-Pop. Pardon, je prends ma voix de trailer. Au menu de Pop-Pop-Pop, donc, aujourd'hui, on utilise ça. Et ça. Mais aussi ça. Tout ça pour papoter tranquillement avec Ryan Reynolds, qui est à l'affiche de Deadpool 2.
Ça le fait, non, Charline ? C'est Hollywood un peu, non ?
J'aurais dit un peu moins loin, Tourcoing en plus, hein, quand même.
Merci Charline.
Je vous en prie.
Au menu également, 13 Reasons Why, la série événement qui est de retour ce vendredi pour la saison 2. On en parle tout à l'heure avec la comédienne Alicia Beau et Brian Yorkey, le showrunner. Voilà pour le menu. Et avant de parler avec Ryan Reynolds, je laisse le soin à un autre super-héros de Lozère, cette fois-ci, de lancer cette émission.
Bonjour, c'est Simon Astier. Et maintenant, pop. Bon, allez-y.
Pop, c'est parti! Ryan Reynolds, ici, il existe une question encore plus incisive que les griffes de Wolverine. Et cette question, c'est... Ah, mais pour vous, c'est quoi? La pop culture.
La pop culture, pour moi, c'est quelque chose qui est clairement... Quelque chose qui est dans l'époque, dans le temps. Quelque chose, en même temps, qui dépasse ça. Et qui va durer. Pas quelque chose qui va disparaître. J'aime bien les choses qui concrétisent quelque chose, qui mettent une émotion de l'époque. Et la création de la pop culture, c'est un peu quelque chose qui est... Il y a tellement de choses dedans. C'est quelque chose qui nous définit, la pop culture. C'est notre langage culturel commun. Et j'aime beaucoup ça, la pop culture.
Ryan Reynolds dans Pop-Pop-Pop, c'est juste après Psychostar, un morceau signé King Tuff.
Antoine Decaune sur France Inter.
We'll be right back.
Sicko Start, un morceau signé King Tuff. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec Ryan Reynolds. Mais qui est ce héros en costume moulburne, qui n'est pas un héros comme les autres? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, ben c'est son portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline.
Tout comme vous, Antoine, notre invité aurait pu se contenter de surfer sur le succès qu'un physique aussi avantageux que le sien et le vôtre lui promettait. Tout comme vous, Antoine, notre invité aime à se travestir, s'abîmer, rigoler. La preuve, il a tourné dans Green Lantern et il est le premier à le regretter. Un peu comme vous avec le... Mais si, le film là. Bon, passons.
Je vois pas.
Tout comme vous, Antoine, il a débuté dans un registre qui fait peur à la jeunesse, le générique de dessin animé pour vous, Amityville, pour lui. Tout comme vous, il a ensuite joué des comédies romantiques pendant que vous étreigniez José Garcia, lui serrait Sandra Bullock dans ses bras, dans la proposition. Vous aimez vous affubler de fausses barbes, postiches et fausses ratiches pour La Gaule d'Antoine, excellente émission de Canal+. Lui est plutôt du genre grand brûlé, masqué et super-héros. De retour, tant de points communs. J'espère que votre rencontre ne tournera pas au combat de coq. Ce serait fâcheux pour parler de Deadpool. Vous l'avez ? De Deadpool 2.
Continuons de découvrir Ryan Reynolds à travers ce qu'il aime sur la planète pop. Nous lui avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série et un jeu vidéo. C'est l'heure donc de sa liste. Pop, 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 pop. Quel serait votre livre préféré?
C'est un roman qui s'appelle « La conjuration des imbéciles », écrit par John Kennedy Toole, qui était un jeune auteur, qui malheureusement s'est suicidé après avoir écrit ce roman. En fait, c'est sa mère qui a trouvé le manuscrit sous son lit, à la Nouvelle-Orléans, chez eux. Et elle l'a amené chez un éditeur. Et puis il a gagné, post-mortem, le prix Pulitzer. C'est un roman fantastique. Mais il a écrit que deux livres. The Neon Bible, la Bible de Léon, et La Conjuration des imbéciles. Il l'a écrit quand il avait 16 ans, je crois. Mais j'adore ce roman, j'adore. C'est corrosif. C'est acerbe, c'est beau.
Un film?
Bienvenue, Mr. Chance. Un film de Hal Ashby. C'est un de mes films préférés des années 70. Avec Peter Sellers.
Shirley MacLaine.
Un film, une histoire merveilleuse. Et j'adore, vraiment. C'est des gens, quelque part, qui... Ça montre le regard qu'on a sur les gens et la façon, quelque part... Chauncey Garner, c'est son nom, c'est le protagoniste. C'est quelqu'un de très simple. Qui dit des phrases et sans sens, qui sont un petit peu vides, et que tout le monde autour de lui commence à prendre comme des choses fantastiquement philosophiques. C'est un film très particulier, magique.
Life is a state of mind.
Je partage ça avec vous, c'est un de mes trois films préférés.
Oh, it is.
Oh yes.
I chose well.
Ah, j'ai bien choisi alors, j'ai gagné.
Une série?
A series, like a television series?
Yes.
Une série télé?
The one that I love, and this is probably
celle que j'aime, moi.
Local,
et c'est très local, parce que moi je viens de la Colombie britannique. Et c'était une série qui s'appelait Bienvenue en Alaska. Un truc culte, un peu dingue. Ça se passe donc en Alaska. Et moi j'adorais. On aime beaucoup les choses pour des choses différentes. Et là, par exemple, ça parle beaucoup de nature. Et puis c'est drôle. Et puis c'est complètement dingue. Mais j'adorais cette série.
Une chanson?
I love Love Vigilantes.
J'aime Love Vigilantes par New Order. Il y a des reprises fantastiques qui existent de cette chanson. Et comme je voyage beaucoup, j'aime beaucoup de cette partie de la chanson. Et il raconte qu'il a envie de rentrer chez lui parce que sa femme et ses enfants lui manquent. Et c'est un sentiment vraiment que je partage, moi aussi. Et donc c'est toujours une chanson qui revient pour moi, dans ma tête.
Et un jeu vidéo pour finir.
And a video game.
A video game.
un jeu vidéo. Je vais vous dire le seul auquel je jouais quand j'étais gamin. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent pour acheter des jeux vidéo. Et donc c'était Punch-Out. Et mon père, qui était boxeur, parce que c'est un jeu de boxe, hein, et qui était boxeur semi-professionnel lui-même. Et donc j'avais un lien pour moi. J'aime. C'est un jeu idiot, hein, mais je l'aime. Punch-Out, c'était sur Nintendo, je crois.
La suite de l'entretien que nous a accordé Ryan Reynolds, c'est juste après un extrait de la BO du premier Deadpool, DMX, Bring Your Whole Crew.
And there's no remorse. And got blood on my dick, cause I fucked the cops. I'm a nasty nigga. When you pass me, nigga, look me in my eye. Tell me to my fucking face that you ready to die. You be a dead motherfucker, red motherfucker. Don't get stupid, you heard what I said, motherfucker. Who shot you? Oh, nigga, like you don't know. Staking you for your dough while I'm fucking your broke hoe. Yo, don't you get the picture? Niggas can't touch me. Cause I don't give a fuck, G, I get you touched, B. I got joints that with my slug will take apart a door. And enough crazy niggas behind me to start a war. So what you want, nigga, help, cause you's about to rest. When I'm fed, Red Cross couldn't clean up the mess. And the vest won't do nothing but make you look a little thicker. Cause in the dark, you ain't nothing but a little nigga. And if you've been thinking about that shit you did, you would've bought the joint with you, kid. Now I'ma have to get you, kid, and split your wig with a machete. I bring beef to niggas and string them out like spaghetti. You ain't ready, nor can you stand how I'm bringing it. How I'm giving it is how I'm living it, so I'm swinging it. Red dot on your head, cause you's in mid-range. Red dot on your chest opens up your rib cage.
I just nigga. Love when a nigga bring his whole crew. It's just a bigger piece of cake for me to chew a hole through. I just nigga. Love when a nigga bring his whole crew. It's just a bigger piece of cake for me to chew a hole through.
I just love
when a nigga bring his whole crew. It's just a bigger piece of cake for me to chew a hole through.
Now if your heart was as big as your mouth, you'd be real. But it's not, so I know if you get knocked, you swill. Like a bitch, cause you is a bitch and always been a bitch. And you know how niggas do a bitch, we run up in a bitch. For something in a bitch. Nigga, do you know me? Nigga, do you owe me? Figured you could blow me? Well, I'ma lick this trigger, do you homie? That nigga's got to be smoking something, thinking you joking something. Fucking around with me, you'll be a broke or something. I'm out for blood with the Crips of War. How much shit could you talk with your lips on the floor? Well, see, niggas make me itch, so I scratch you's a bitch. So I snatch up your face, fake and pit, so I scratch you. Yeah, there was a time when I would've jumped up and choked this nigga. Now I'm on some shit like, yo, smoke this nigga. I'm about to find out how much gut you got before I spill him. Somebody come and get this motherfucker before I kill him. Ah, fresh out the asylum, I'm wildin'. Yeah, niggas know the phone numbers for help, you best to dial him. 911, emergency, the urgency. We'll have witnesses seeing what the surgeons see. How far you gon' get with your dome split, fool? And catch your man slipping cause he think his shit cool. But it ain't, so I paint the walls with his blood. Another dick in the mud, nigga, what?
I just love when a nigga bring his whole crew. It's just a bigger piece of cake for me to chew a hole through. I just
nigga.
Love when a nigga bring his whole crew. It's just a bigger piece of cake for me to chew a hole through.
I just
love when a nigga bring his whole crew. It's just a bigger piece of cake for me to chew a hole.
DMX, Bring Your Whole Crew, un morceau présent sur la BO du premier Deadpool. Deadpool, Deadpool, pourquoi tout le monde parle de Deadpool? Et pourquoi, surtout moi, je parle autant de Deadpool? Ah oui, oui, je sais, c'est parce que nous avons rencontré Ryan Reynolds pour parler de Deadpool 2.
Pop, pop, pop.
Ryan Reynolds, vous n'en êtes pas à votre première incursion dans l'univers des comics? On vous a vu en Green Lantern, dans Blade Trinity, dans Wolverine Origins, dans Deadpool donc, et dans RIPD, Brigade Fantôme. Qu'est-ce que le monde des comics a de si attirant pour un comédien comme vous?
The world of comics is exciting because I think
c'est un monde enthousiasmant parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui plonge dans le rêve. Cette adaptation vers le monde du cinéma est tout à fait excitante. Et ça marche vraiment bien, pas toujours comme dans Green Lantern, mais pour Deadpool, ça marche vraiment particulièrement bien. C'est un personnage qui fait des choses incroyables, des choses interdites. Et c'était quelque chose qui, vraiment, on pensait pouvait marcher vraiment au cinéma. C'est quelque chose qu'on n'avait vraiment jamais fait au cinéma. Et c'était très enthousiasmant de faire partie de ça. Et le deuxième est tout aussi enthousiasmant.
Et d'ailleurs, de tous ces super-héros que vous avez incarnés, selon vous, lequel botterait facilement le cul de tous les autres?
Ah, that's a good question.
Ça, c'est une bonne question.
It's probably going to be Deadpool.
Sans doute Deadpool.
You know, I don't think any Green Lantern.
J'ai pas l'impression que Green Lantern ou les autres aient la moindre chance. Non, ça, c'est Deadpool. Parce que lui, il se bat vraiment à la déloyale. Il y va à fond. C'est quelqu'un qui a vraiment une morale très, très dévoyée.
Ryan Reynolds, pour la seconde fois, vous réendossez le costume et revêtez la vilaine peau de Deadpool, super anti-héros qui, cette fois, devra, entre autres méchants, affronter un super soldat dressé pour tuer. Et l'insolent mercenaire que vous incarnez n'a en rien perdu de sa langue bien pendue, comme le prouve cette bande-annonce.
What in the foxicle is this?
My name's Cable. I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
Kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you.
You're a lot smarter than I look.
I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone.
Can you speak up? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth.
Rire, botter des culs et dire des horreurs, c'est ça la vie selon Wade Wilson, Deadpool?
C'est vrai que Deadpool, c'est quelqu'un qui n'a pas de surmoi. C'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Et c'est pour ça qu'ils lui disent, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, comme c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de parler. Et moi, quand je suis moi-même, je peux quand même me contrôler. Mais pas Deadpool. Et c'est une des choses que je crois le public aime chez lui. C'est de voir, c'est qu'il dit tout ce qu'il pense et qu'il fait des choses que les autres super-héros n'oseraient pas faire. C'est vraiment quelque chose comme un anti-héros, vraiment, dans le sens classique.
Et pour vous, Ryan Reynolds, retrouver ce personnage, ça passe d'abord par renfiler le costume et la peau grêlée ou se réhabituer à son langage si particulier?
C'est un peu tout ce qu'on a dit. Le processus du premier film, ça a commencé il y a 11 ans. Et pour le deuxième, c'était comme si je n'avais pas arrêté de travailler le personnage. On avait continué à développer les choses et travailler sur le second. Et puis les scénaristes avec eux aussi, je travaillais cette franchise, ce personnage. Et quelque chose qui vraiment, dans lequel je me plonge complètement et j'y mets toute ma vie. J'ai pas vraiment eu d'autres choses entre temps. Donc c'est un costume que je ne l'abandonne pas. Je suis toujours avec.
Mais alors les dialogues comme ceux de Deadpool, est-ce que ce sont des dialogues comme les autres à apprendre et à travailler pour un comédien?
Ah oui. You know, the voice of Cable and certainly with Domino and
avec Domino et Cable.
They're amazing, rich. They have amazing, rich backstories.
Ce sont des personnages qui sont très riches. Et on peut du coup passer beaucoup de temps avec les autres acteurs à réfléchir à ce qui s'est passé avant pour ces personnages. Et il y a des choses qui parfois sont vraiment très compliquées, vraiment comme chose à dire, parce que ça a été écrit par des scénaristes différents. Il faut vraiment choisir ce qui vous convient et prendre des idées chez chacun. Moi, j'aime beaucoup Domino. C'est peut-être le nouveau personnage que j'aime le plus. Et j'aime beaucoup Josh Brolin qui amène une présence très forte aussi. Et je pense que le public va adorer ce nouveau.
Malgré un langage fleuri, une tracherie assumée qui ont valu au premier volet des interdictions diverses et variées pour le jeune public, le premier Deadpool a battu des records d'entrée. Est-ce que ça encourage à aller plus loin dans l'épisode 2?
Ah oui, je crois qu'effectivement il nous fallait aller plus loin. Encore. On avait une histoire d'origine qu'il fallait absolument présenter des choses et vraiment raconter quelque chose et construire l'histoire qui fait que voilà, il est en arrivé là. Après ça, on est libre. Et quelque part, on a vraiment comme une boîte magique avec laquelle on peut jouer. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que le public va plonger dans l'histoire. Et Deadpool est quelqu'un qui doit avoir quelque chose au cœur du film, quelque chose qui est émotionnel. Et il est plus intéressant quand il souffre, je pense. Et donc, il faut quelque part toujours vérifier qu'il y a toujours ça dans le personnage et que c'est quelque chose dont on ne prive pas de ses émotions. Et c'est pour ça aussi qu'il est permis qu'il dise toutes ces choses qu'il dit affreuses.
L'une des vraies différences avec le premier Deadpool, c'est que même si le film n'est toujours pas tout public, c'est en tout cas un film sur la famille. Pourquoi cette thématique cette fois ?
Dans le premier Deadpool, on avait une histoire d'amour qui devenait assez corrosive et une satire un peu. Et dans le deuxième, on utilise le même principe. Donc oui, c'est un film familial, on raconte une histoire de famille, oui. C'est l'idée que nous sommes tous définis par les gens qui nous entourent. Ce sont les gens qui nous nourrissent, qui nous font grandir. Et c'est quelque chose dont on a besoin tous. Et donc le jour où il devient vulnérable et sensible, eh bien, il utilise finalement l'humour comme prisme pour faire passer sa douleur et sa difficulté de vivre. Et j'aime l'idée que le deuxième soit un film familial. Quand on a commencé à lire le scénario, on pensait à tous ces films Pixar. Et on se disait, qu'est-ce qu'ils feraient, eux, Pixar, avec ça? Et c'est toujours merveilleux ce qu'ils font comme récit. Il y a toujours, même pour les personnages secondaires, toujours une histoire à raconter qui est toujours très enrichissante. Et on voulait ça aussi pour Deadpool, même si c'est un film un peu pervers et un peu interdit au moins de 13 ou 18 ans.
Ryan Reynolds, vous vous retrouvez dans la situation étrange, celle d'un acteur au visage masqué par des brûlures, doublement masqué par sa combinaison. Et du coup, il vous faut jouer d'une manière très physique, un peu comme au temps du cinéma muet, sauf que Deadpool parle énormément. Comment est-ce qu'on joue avec toutes ces contraintes ?
Ça, c'est une super question. Le premier film, je me rappelle, en faisant le développement, quand on essayait des différentes tenues, une fois que je mettais le masque, je me suis dit, mais là, on est foutu. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais communiquer, je ne sais pas comment je vais jouer. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris une caméra et on a passé quelques jours à lire des scènes, à essayer des choses, à essayer de jouer avec le masque. Et j'ai appris, comme vous l'avez dit, comme dans un film muet, à exagérer les mouvements. Et quelque part, à la caméra, à l'image, je ne sais pas pourquoi, eh bien, on peut projeter des choses au-delà du masque. On peut y arriver. Et j'ai eu vraiment une aide qui m'est venue. Parce qu'il y a une petite animation qui existe et qui peut être imposée sur le masque et ça permet à faire quelques expressions, ce qui est important. Mais c'est pas tellement que c'était nécessaire, disons que c'est une aide. Et j'ai beaucoup aimé ça. Moi, ce que j'adore, moi, faire chez moi, c'est regarder la télé et regarder cette chaîne qui s'appelle Turner Classic Movie, TCM. Et j'adore regarder ces vieux films muets, ces classiques. J'adorais Marcel Marceau quand j'étais enfant. C'est quelque chose qui est physique, qui est quelque chose qui est direct, c'est le corps qui s'exprime. Notre réalisateur Dave Leitch, quand on préparait le film, il nous montrait des films de Buster Keaton. Parce que tout ce que Buster Keaton faisait, c'était vraiment dans le plan, dans la caméra. Il n'y avait pas du tout de choses de trucage, si vous voulez, en plus. Et il se mettait dans des positions très très compliquées. Et j'adore ça. Et on a essayé d'aller dans cette direction.
Enfin, c'était quand même un challenge assez incroyable à relever. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus difficile ? Une comédie romantique déguisée en membre du Ku Klux Klan, par exemple ?
Oh, wow. That would be very difficult.
Ça, ce serait très difficile.
And may I say ill-advised.
Et je pense que ce ne serait pas une bonne idée.
Probably a very bad idea.
Peut-être une très mauvaise idée, même. C'est toujours difficile de travailler derrière un masque. Mais quelque part, c'est aussi encore plus difficile de travailler avec ce maquillage, avec toutes ces cicatrices, avec tout le temps qu'il faut. Je ne voyais jamais ma famille parce que j'ai deux petites filles. Elles pleureraient si elles me voyaient avec cette tête-là et avec ces cicatrices. Donc pour moi, c'est ça qui était compliqué. C'était que j'étais seul. Je pouvais enlever le masque quand on tournait et être avec ma femme et mes enfants. Mais quand j'avais ces cicatrices sur le visage, là, J'étais sans ma famille, j'étais seul.
Alors, l'avantage, c'est qu'évidemment, dans toutes les scènes d'action et de combat hyper spectaculaires, vous pouvez vous faire doubler par un cascadeur et aller tranquillement fumer une clope à la cantine, parce que c'est évidemment ce que vous faites, non?
Well, you know, it's, I wish it was that simple.
J'aimerais que ce soit aussi simple.
You know, Dave Leach, is a guy
Dave Leach
is
c'est un type qui lui-même est un, quelqu'un qui aime vraiment beaucoup aller dans le danger et qui a fait beaucoup de choses dans le domaine, vraiment des cascades. Et donc j'ai fait plus de choses que dans le deuxième, que dans le premier, pardon. Mais nos gens qui sont avec nous et qui font les cascades sont vraiment des gens extraordinaires. Je pense qu'aux Oscars, il devrait y avoir un Oscar attribué aux auteurs de ces pirouettes, parce qu'ils sont avec nous dans l'équipe, et comme les Avengers, tous les gens qui font nos cascades là-dessus sont des gens magiques. Et Jackson Spidell, qui fait les cascades pour moi en général, c'est lui qui a fait que Deadpool est un personnage vivant et qu'il existe vraiment à la caméra.
Dans un tout autre registre, vous réussissez dans ce film un exercice assez compliqué, voire casse-gueule, disons-le. C'est l'adresse au public et la voix off. Est-ce que c'est un exercice que vous redoutez?
Non, j'adore. J'adore qu'il parle directement à la caméra. Et si jamais je prenais juste un truc qui le rend unique, c'est qu'il a cette direction, cette attitude vraiment directe avec le public, cette communication. Et c'est presque un avantage qui est complètement injuste par rapport aux autres. Parce que dans les films de Deadpool, on utilise ça un petit peu comme un second degré, comme quelque chose qui est un prolongement du film. Et le scénario et tout ce que l'on fait autour pour faire la promo du film aussi, on fait ça dans cet esprit-là. Et j'aime que Deadpool ait une relation très authentique avec son public. Et quelque part, c'est lui qui dit toutes les choses. C'est lui qui dit ce que tout le monde pense. Il peut dire, regarder la caméra en disant, vous vous rendez compte du coût de cette scène à tourner pour la production? Et moi, j'adore ça chez lui. C'est quelque chose qui me permet, disons que ça explique mon grand amour pour ce personnage.
Ryan Reynolds, deuxième partie, c'est juste après les news.
On a un changement de sponsor, non, au niveau du lancement. Bref, un troisième album live pour Justice.
Ah, on est à l'antenne là.
Oui, Antoine. Après Across the Universe et All Access Arenas, le duo français sortira cet été Woman Worldwide, qui contiendra donc des versions live et alternatives de quelques titres de leur disco, comme le Stop que vous entendez en ce moment même. Le disque sortira le 24 août et pour les voir et les écouter live et en vrai, ce sera le 26 août à Rock en Seine, domaine national de Saint-Cloud.
Des vacances monstrueuses, c'est ce que nous promet le troisième volet des aventures animées de Drac, le vampire hôtelier dont l'établissement abrite normalement momies, fantômes, loups-garous et autres créatures. Mais cette fois, Drac a besoin de prendre l'air et pour ça, il peut compter sur l'aide de sa fille, Mavis.
Que puis-je faire pour vous, seigneur des ténèbres?
Je cherche le grand amour.
Vous cherchez une grande armure?
Non, non, ce que je veux, c'est l'amour d'une femme.
Vous voulez le mur d'une ferme?
Ce n'est pas ce que j'ai dit, je veux faire une rencontre. Je veux de l'amour.
Je comprends. Vous voulez des rats morts.
Ah, un œil en trop. Pas assez d'yeux. Je n'aime pas les tentacules.
Papa?
Oh, Mavis!
Tu es stressé à force de trop travailler. Tu dois prendre des vacances, ne plus t'occuper des vacances des autres. Et je sais comment arranger ça.
Mavis, s'il te plaît, dis-moi où nous allons. Une croisière?
Hôtel Transylvania 3, des vacances monstrueuses, ça sort le 25 juillet.
La séquence qui va suivre s'appelle dans ton canne.
Comme chaque soir, effectivement, allons prendre la température de la croisette avec notre chroniqueur qui est plus cagole que les cagoles locales, Ronan Cro. Allez, on se connecte, comme on disait dans Love Story. Ronan?
Bonjour Antoine, comment ça va?
Oh, bonjour Ronan, vous êtes
je
là!
Je perds bien la cagole, vous voyez ou
mais
pas?
Ben oui, alors! Et faisons toute la chronique comme ça!
Oh non, vraiment!
Non, j'ai un petit peu de respect pour vous et pour moi aussi.
Bon, alors.
Comment ça va à Paris?
Mais, ça va très très bien à Paris, il pleut à torrent aussi, exactement comme chez vous.
Mais oui, mais nous à Cannes, il s'est passé un phénomène extrêmement rare. On a ri à Cannes. On a ri, et oui, le festival de Cannes a ri avec deux films extrêmement drôles.
Ah, c'était pas à cause de vous.
On a ri français, messieurs, dames. On arrive français avec un film de Gilles Lelouch qui s'appelle Le Grand Bain, qui est un
film
très attendu.
Qui...
Et c'est très très bien, c'est très drôle. C'est avec Benoît Poulvorde, Guillaume Canet, Alban Ivanov et le génial Philippe Catherine qui fait de la natation synchronisée. C'est un peu le French Pool Monty, vous voyez.
Ouais,
c'est-à-dire, en gros, une sorte de comédie à l'anglaise mais à la française, fait avec du style. Vraiment le cœur gros comme ça. C'est très drôle, très amusant, plein de personnages, plein d'idées. C'était vraiment la vraie surprise hier à Cannes.
J'ai l'impression que ça vous a plu.
J'ai adoré, vraiment adoré. C'est vraiment la comédie sortira en octobre. Ça va être un énorme carton. Je prédis un très gros succès, peut-être même quasiment une bataille avec Intouchables. C'est-à-dire
Bravo.
Que ça peut être vraiment un énorme carton. Mais aussi, il y a un autre film qui sort d'ailleurs une semaine après, en octobre, qui s'appelle En Liberté de Pierre Salvadori. Mm-hmm. Je l'ai vu il y a quelques instants. Alors là, vraiment, c'est à pleurer de rire. Alors, Antoine, il faut absolument que vous voyez ça.
Ah, mais attendez,
Renan,
full
Blake Edwards.
Renan, il faut faire votre choix là.
Vous pouvez pas avoir non, c'est vraiment les deux en même temps.
Les deux.
Pour une fois que la comédie française est aussi drôle et aussi bonne, allez-y. Ça sortira en octobre, ça s'appelle En Liberté, c'est avec Adèle Haenel et Pio Marmaille, une histoire de culpabilité, de flic, l'histoire d'une femme qui découvre que son mari flic n'était pas un héros et elle décide de réparer les erreurs qu'il a fait. C'est très très drôle, Pio Marmaille est hilarant. Il y a plein d'histoires dedans, plein de gags burlesques, il y a du sadomasochisme, il y a tout ce que vous aimez Antoine dedans. Et vraiment c'est l'hommage absolu à Blake Edwards. On connaît Pierre Salvadori pour ses très très bonnes comédies.
Qu'est-ce qui vous permet de croire que j'aime le sadomasochisme.
Vous pratiquez ensemble tous les deux, je veux pas balancer à l'antenne.
Exactement,
mais...
on commence
un peu pas censé le dire à l'antenne, ça.
Oui, mais on est commencé à être intime, puis les auditeurs, les popopiens, les popopiennes vous aiment, Antoine, ils veulent savoir exactement ce qui se passe avec Charline dans les bureaux.
Mais enfin, au privé, vous m'appelez Maître Antoine, là je ne comprends pas.
C'est vrai, Maître Antoine, c'est exactement d'ailleurs ce qui se passe dans le film. Mm-hmm. Bref, la Croisette Harry, c'est un événement, c'est un breaking pop-up news, quoi, carrément. Mm-hmm. C'est vraiment un festival de Cannes qui avait besoin de rigoler, parce que croyez-moi, en compète, on rigole pas beaucoup, beaucoup.
La Croisette Harry, ça c'est une bonne nouvelle, et deux comédies françaises qui vont sortir ensemble en octobre, évidemment.
En octobre, quasiment à une semaine d'intervalle,
mais
fin
voyons.
Octobre, voilà. Donc, et ça va être vraiment les deux gros succès
voilà
du cinéma français.
Une programmation judicieuse.
Exactement, Antoine.
Merci, Renan.
Merci, Antoine et Charline.
On continue, on vous retrouve demain et ne laissez pas trop de monde rentrer dans votre canne.
Rentrer dans mon canne, évidemment. Ouais. C'est select, vous savez.
À demain. France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune. Ryan Reynolds, deuxième partie, c'est juste après un morceau du jeune anglais Cosmo Sheldrake. Come along.
Catch a heffalump, sip with me on a muddy clump. We'll sing a song of days gone by. Run along now, don't be glum. Get you gone now, have some fun. Don't be long for the end is nigh. Don't let moments pass along and waste before your eyes. March with me. Come with me in the slidy toes and never ask us why. Come along now. Run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird's song. Slows down and the sunbeams fade away. Once we're fed, we shall disappear rapidly. Many moons to the west of here and happily, our journey never ends. Shut your ears when sirens sing, tie armbands to your feet. Listen up and you won't go wrong again. Was along on a verseless song and then get to where the two ends meet. Come along now. Run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll see.
morning comes, up will rise by the sound of the birdsong.
Alors, c'est pas beau ça, Come Along, morceau extrait de l'album The Much Much How How and I de Cosmo Sheldrake. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite les cultures de façon... Et la suite de l'entretien avec Ryan Reynolds pour parler de Mulburn et de super-héros, car oui, l'insolent mercenaire de Marvel remet le masque. Plus grand, plus mieux. Occasionnellement, les fesses à l'air, il devra affronter un super soldat dressé pour tuer, repenser l'amitié et la famille et ce que signifie l'héroïsme, tout en bottant 50 nuances de cul, car comme chacun sait, pour faire le bien, il faut parfois se salir les doigts. Car c'est ça qu'on peut lire sur Allociné. Maintenant, écoutons Ryan Reynolds en parler juste après mon... L'une des particularités de Deadpool, c'est donc son irrévérence, qui fait qu'il n'a pas un ennemi, mais plusieurs ennemis. Mais cette fois-ci, son adversaire principal est super costaud, Cable, incarné par Josh Brolin. Il vous fallait un acteur super balèze, avec une bonne tête d'enfoiré, c'est ce qui vous a convaincu de choisir Brolin?
Yeah, I mean, really, yeah.
Mais oui, en fait, oui.
Deadpool is a vulgar child.
C'est un enfant très vulgaire, Deadpool.
Cable is
et Cable.
A tried and true adult.
Et quelqu'un qui est vraiment essaie d'être un adulte, lui.
So you really want that.
Donc effectivement, on voulait effectivement cette alchimie, qu'ils soient tous les deux très très différentes et qu'ils soient chacun d'un côté du spectre. Leurs histoires sont étrangement similaires pourtant, parce que ces deux gars-là ont une symétrie quelque part dans leur histoire. Mais Josh Brolin, c'est la première personne auquel on a demandé de jouer Cable. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas disponible. Et donc, comme notre tournage a été reporté et que ça a été retardé en été, et donc on lui a redemandé. Et je crois que c'est Dave Leitch qui a dit, mais si on demandait à Josh s'il était disponible maintenant, on lui a envoyé le scénario, il a dit oui. Et 2 heures après avoir lu le scénario, il était notre Cable.
Vous avez participé à l'écriture du scénario, vous le disiez, vos co-scénaristes disent de vous, je cite, « avec lui, les blagues fusent ». Alors, quel est votre ratio déchet-réussite? En d'autres termes, combien de vos vannes ont été gardées dans le film?
Oh,
ce sont des gens qui sont très généreux quand ils disent ça, mais je dirais que vraiment, Deadpool, c'est 3 personnes qui l'interprètent. Red Reese, Paul Wanner et moi-même. Ce qu'ils ont apporté au personnage est inimaginable. Et j'adore écrire avec eux. Et on est amis tous les 3 depuis 10 ans ou quelque chose comme ça. Ils habitaient, pendant qu'on écrivait, ils étaient chez moi, ils habitaient chez moi. Et le premier Deadpool, pour moi, ça a duré 11 ans, mais pour eux deux, c'était 8 ans. Donc, pendant 8 ans, on a travaillé, on a essayé de faire ce film ensemble. C'est comme mes frères. Vraiment, on a vraiment une relation de travail épatante.
Le film est un vrai bonheur pour tous les fans de pop culture dont nous faisons partie. Pas une seconde sans référence à d'autres super-héros, à Beyoncé, à James Bond, et je m'arrête là pour ne rien spoiler. Un amour, voire une geekerie pop culture que vous partagez, Ryan Reynolds?
Mais oui. Comic book geek to some degree.
Je suis un geek de comics, c'est vrai. J'ai toujours été obsédé par Deadpool. Mais aussi, j'adore la pop culture, oui. Les références. J'adore les années 90. Je pense que Deadpool, quelque part, ça me permet de rentrer là-dedans et de montrer mes démons. Et j'adore l'idée que Deadpool puisse apporter la pop culture dans ses films d'action qui sont un petit peu fous. Et on peut toujours, quand il y a trop de tension, on peut toujours passer à autre chose dans Deadpool. Et le public aime bien ça, je crois. Il y a côté quelque chose d'authentique entre Deadpool et son public.
On peut le voir aussi sur Instagram, sur Twitter et partout où vous passez faire de la promo. Et même dans le film, vous êtes d'un naturel joueur et facétieux. Vous avez la blague facile. Est-ce que c'est là votre seul point commun avec Wade Wilson? Ou est-ce que vous avez, vous aussi, une forte propension à l'autodérision, au mépris de vous-même et à la honte?
Definitely. I mean, I think
ah oui, complètement.
At my core, I'm a self-loathing.
Je suis quelqu'un au fond,
you know, with an
un Canadien qui a un côté acide et qui est vraiment une détestation de lui-même, oui. Mais j'arrive à filtrer un petit peu, moi, alors que Deadpool, non.
You know, Deadpool, in the movie,
Deadpool dans
you
les films,
sort of, in a weird way, kind of hates Ryan Reynolds.
Il déteste Ryan Reynolds quelque part. Il pourrait l'attaquer. Il y a des moments de ça un petit peu. Et c'est important.
Deadpool,
c'est un type qui, quelque part, est en train d'être dans une spirale lente de honte et sans cesse. Et ça n'est pas un type à la Captain America, c'est pas quelqu'un de vertueux. C'est quelqu'un qui est moralement beaucoup plus flexible et beaucoup plus tangent.
Vous qui passez votre temps à troller sur ces mêmes réseaux sociaux vos camarades acteurs comme Hugh Jackman, comme votre épouse Blake Lively ou même votre collègue Josh Brolin dans le film, pour ne citer qu'eux, hein, est-ce que vous ne craignez pas leur vengeance à un moment ?
Je dirais ça, si je troll quelqu'un sur Internet, c'est parce que je l'aime. C'est pour ça, que ce soit clair. Parce que, et c'est vraiment mon admiration, mon amitié pour eux qui me permettent de faire ça. Tous ces gens-là, ils ont ce qu'ils méritent, vraiment. Ils y sont allés eux aussi, ils ont cherché. Hugh Jackman est un copain depuis plus de 10 ans. Et vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de plus sympa, de plus intelligent, de plus talentueux à Hollywood, vraiment. Il est vraiment comme ça, dans la vraie vie.
Oui, enfin, Hugh Jackman, que nous recevions il y a quelque temps, nous disait, je le cite, hein, Reynolds et Brolin, je m'en fais deux comme eux tous les matins au petit déjeuner, mollets, c'est vraiment des guignols, surtout Reynolds.
Yes, that sounds like Jackman.
Oui, c'est tout à fait Jackman, ça, oui.
Like Jackman.
C'est
he
tout à fait lui. Il a un appétit extrêmement robuste, oui.
I feel like Cable and Deadpool ensemble,
cependant, vraiment pourrait vraiment casser la gueule à Wolverine, je pense.
We'll never know,
mais
we'll
on ne sait jamais, parce qu'on arrivera à ça. Au final, on finira par pisser sur sa tombe, c'est tout.
Comme c'est l'une de vos compatriotes, est-ce qu'on peut parier, déduire que c'est vous qui avez imposé Céline Dion pour le générique du film ?
En fait, oui, effectivement, tout à fait. J'aime Céline Dion. Je suis canadien, elle l'est aussi. Quand on avait cette chanson, c'était une chanson absolument super. Et on essayait de trouver quelqu'un qui pourrait la chanter. Parce que c'est un peu le thème de Deadpool 2. Et le studio, comme toujours, est revenu avec un choix beaucoup plus attendu. Quelqu'un qui soit très à la mode, très jeune, etc. Et j'aime beaucoup ces stars-là, mais j'ai dit... Mais non, demandez-lui quand même. Elle est légendaire, elle est fantastique. Qui peut faire ça mieux qu'elle ? Et elle va transformer cette chanson.
Ça sera...
Et donc Céline Dion, j'ai dit. Donc on va lui demander, mais non, elle va refuser. Donc je lui ai écrit une lettre. Elle a lu la lettre, et je ne sais pas pourquoi, mais elle a dit oui. Et puis elle a dit oui à ce clip vidéo complètement absurde. Elle a accepté. Elle a été géniale, elle a tellement été plein de... vraiment sympathique, et la chanson est tellement belle. C'est facile d'être pris par le côté comique de la vidéo, mais la chanson, quand même, elle l'a enregistrée. Et c'est une chanson, une des plus belles que j'ai jamais entendue.
On désespère de voir un jour un super-héros français. Est-ce que vous seriez tenté d'en créer un, ou bien est-ce que vous pensez, comme tous les Américains, que c'est un oxymore ?
Oh mon Dieu, non. La France a vraiment mérite un super-héros à la Marvel, ou peut-être un héros même créé ici. Mais je suis d'accord. Au Canada, on n'a pas vraiment ça non plus, même si techniquement Deadpool est canadien. Mais c'est plutôt un anti-héros quelque part. Je crois que je ne suis pas la bonne personne, parce qu'il faut que ça vienne vraiment du cœur du pays. Il faut trouver un auteur français très fort. Mais vous pourriez, vous.
With a mask?
Yeah, you could write it.
Mais oui, vous pourriez écrire et puis vous pourriez en mettre la vedette. Allez, foncez pour votre pays.
Ok, that's a deal. La prochaine fois que vous venez, je vous montre mon film.
It feels like a G8 summit.
Mais oui, là, on est au G8, là, on est en train de créer quelque chose.
Et pour terminer sur Deadpool, est-ce que vous pensez, comme Wade Wilson, je cite, que l'amitié, c'est buter des pédophiles ensemble.
Oh, yeah. Deadpool does have a line in the movie.
C'est vrai qu'il y a une réplique qui dit ça. Il dit que c'est que les meilleurs copains qui peuvent casser la gueule à des pédophiles ensemble. C'est ça l'amitié. Et c'est effectivement, on peut dire, un signe d'amitié. C'est un peu abstrait, mais oui.
Et puis,
quand Deadpool veut être copain avec quelqu'un, il dit toujours des choses qui sont complètement absurdes comme ça. Mais c'est parce qu'il veut aimer et être aimé. Et je crois qu'il veut aimer et être aimé par Cable. Et Cable n'est pas d'accord. Mais Deadpool, il essaie d'entrer, d'aller dans cette direction.
Merci Ryan Reynolds. Deadpool 2, c'est réalisé par David Leitch et c'est sur les écrans demain, si jamais vous voulez vous faire une bonne toile, comme disent les millennials. Et en plus, c'est sans entracte. À noter également la mise en ligne sur Netflix ce week-end de la saison 2 d'une série dont on a beaucoup parlé, 13 Reasons Why. Charline est allée à Rome,
oui,
pour nous, mais surtout pour vous, chers auditeurs, car s'il n'y a pas de vous, il n'y a pas de nous. Bref, Charline, vous avez rencontré une des comédiennes et son showrunner.
Absolument, Antoine. La saison 1 de 13 Reasons Why avait été diffusée au printemps dernier et s'intéressait à un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Clay et qui découvrait sur le pas de sa porte une boîte contenant 7 cassettes de la part d'une de ses amies, Anna Baker, qui avait mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Alors, des cassettes contenant un message cryptique de la part d'Anna, si ces cassettes sont en ta possession, c'est que tu fais partie des 13 raisons pour lesquelles j'en suis arrivée là, ce qui était assez glaçant. 13 épisodes forts, tendus, dans l'univers du lycée, l'impact sur les autres ados, impliqués ou non, les parents, le tout exploré assez intelligemment, façon polar parfois, drame ado à d'autres moments, une série qui a rencontré un grand succès chez les jeunes gens, mais aussi chez leurs parents.
On peut donc en déduire que cette saison 2 est très très attendue.
Très très attendue. Alors les interviews ont été faites dans des conditions très particulières. Vous l'avez dit, on allait à Rome, mais on n'avait pas le droit de voir les épisodes avant. Au cas où il y aurait des spoilers, pas de possibilité de voir la saison avant la mise en ligne. Une grosse attente aussi, puisque la saison 1, comme toute bonne série, se termine sur des cliffhangers, sans avoir répondu à de nombreuses questions posées. Et quand j'ai rencontré le showrunner de la série, Brian Yorkey, il y a quelques semaines, pour avoir des révélations, c'était un peu compliqué.
We will answer everything, I promise you.
Oui, on répond. On répondra à toutes les questions. Je ne vais pas y répondre tout de suite, mais on répondra à toutes les questions.
Voilà, voilà. Alors, ceci étant dit, reste un des éléments constitutifs de la saison 1 dans la saison 2, un jeu de faux-semblants, de mystères à résoudre et de thématiques extrêmement lourdes. Ces ados ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être.
Oui, absolument.
On retrouve dans la saison 2 les sujets de la saison 1. Il y a des jeunes, des personnages dont on pense savoir qui ils sont, mais on apprend plein de nouvelles choses sur ces gens-là, sur ces jeunes. Ils sont surprenants et je crois que c'est vrai pour les jeunes de la vraie vie. Donc il y aura des surprises. On sera notamment surpris par Hannah. On croit connaître Hannah, mais on a beaucoup de choses à apprendre sur elle.
On poursuit donc l'enquête sur le suicide d'Anna, en espérant que justice soit faite. Et de justice, il sera aussi question pour les vivants, et notamment le personnage de Jessica, une lycéenne et ex-camarade d'Anna, qui subit dans la saison 1 un grave traumatisme. Je vous ne le dévoile pas si vous avez raté les épisodes. Non. Une saison 2 qui a trouvé quelques résonances dans l'actualité, comme l'explique Ali Chabot, l'interprète de Jessica.
Yes, definitely with this whole Me Too movement that came out, that... The Ronan Farrow article came out in the middle.
Il y a un article de Vernon Farrell qui est sorti pendant le tournage. Et moi, je me suis senti encore plus de courage, plus d'énergie pour repartir parce que ça m'a rappelé la pertinence et l'importance de cette histoire qu'il faut absolument raconter.
J'ai bien compris, une série avec des thématiques lourdes, mais ça reste quand même un show ado, non ?
Alors, franchement, non. Honnêtement, ça fait bien longtemps que je ne suis plus une ado, mais je me suis sentie extrêmement concernée. Et la grande force du show, c'est la représentation même de ces ados. Si vous aimez les clichés, passez votre tour, ce que confirme Ali Chabot.
Oui, c'est ce que j'aime le plus, moi, dans cette série. La distribution, les personnages, les comédiens, les comédiennes sont absolument géniaux. Et il n'y a pas de caricature. Parce qu'évidemment, dans les séries pour ados, il y a toujours le sportif, la pom-pom girl, la fille sexy et la fille binoclarde. C'est très manichéen. On pourrait, dans cette série-ci, avoir cette impression au début, mais en réalité, on s'aperçoit qu'ils revêtent différents aspects, sont des personnages complexes, et c'est pourquoi les gens comprennent de qui il s'agit, parce qu'on a fait le portrait de véritables adolescents.
13 Reasons Why, saison 2, s'est mise en ligne ce vendredi sur Netflix.
Merci Charline, on approche de la fin de l'émission. Il est donc l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais de ce pas.
Bah. Mais Henri, mais qu'est-ce que tu fais tout moulé dans du latex, là? Quoi? Tu veux être un super-héros? Et c'est pour ça que t'as mis un slip et une combi en latex? Ah, tu veux pas que l'autre tocard de Spider-Cochon soit le seul cochon super-héros de la pop culture? C'est ça, bah écoute, slow down, Henri. Surveille ton langage d'abord, parce qu'au moins, Spider-Cochon, il peut marcher au plafond, lui. Tu sais faire quoi, toi? Quoi? Tu peux voler? Non mais, c'est n'importe quoi. Attends, t'es tellement moulé dans ta combinaison que tu peux à peine marcher. D'ailleurs, enlève-moi ça, là, t'es ridicule. Allez, allez, plus vite. Voilà, bon, c'est bon, ça va. Et puis t'énerve pas, si tu penses que tu peux voler, bah vas-y, vole. Oh là là, la misère. Bon, allez, le temps que tu te relèves, écoutons Monique Tubert avec tes oreilles. Allez, relève-toi, tu fais pitié, là. Tant plus, ça déchirait ton slip, tu vas avoir du mal à te reposer.
Qu'est-ce qu'il est chouette! Qui c'est qui a dit qu'on peut pas imiter les Anglais? Oh, dis donc, tu balances drôlement pour ton âge. Et puis t'as un gimmick formidable. Oh, terrible, j'en ai jamais vu de pareil. J'avais ton disque. Tu sais ce que j'en ferais? Je le casserais pour en avoir un autre. Tiens, t'es comme moi. Tu joues avec ton corps, tes hanches, ta bouche. Oh, du tonnerre! En somme, y a qu'avec les oreilles que tu fais rien.
Monique Tubert avec les oreilles dans Pop 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 sur France Inter. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission. Deadpool 2, c'est demain en salle et la saison 2 de 13 Reasons Why, c'est vendredi. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Lucas Vaillant, à la traduction Harold Manning, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, on parle de Coachella et de stand-up avec Petit Biscuit et Buzzy P et Fanny Lee Camara. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos combi moulburn de super-héros sur YouTube, abonnez-vous. C'est vraiment serré. Hein. Ah, un autre podcast.
Ça circule pas bien là, hein, le sang.